La revue de presse avec Philippe Gault.
C'est une semaine politique, bonjour Philippe, et sociale chargée qui nous attend selon la presse ce matin.
Bonjour Guillaume, oui, une semaine explosive que tente de désamorcer le gouvernement selon Le Parisien aujourd'hui en France. La semaine à haut risque de Macron pour Le Figaro, une semaine politique qui a débuté hier avec la marche organisée à Paris par la NUPES de Jean-Luc Mélenchon. Pour Vincent Trémollet de Villers, certes, le cortège entre Nation et Bastille n'était pas ridicule, mais je cite, la France des pavillons, bagnoles, pêche à la ligne, The Voice et Barbecue n'est pas montée dans un car pour marcher au son de Diams dans Paris et recevoir tous les 50 mètres un tract en écriture inclusive. Toutefois, selon l'éditorialiste du Figaro, la faute d'Emmanuel Macron serait d'avoir tenté de séduire cette gauche en restant indifférent aux angoisses, notamment identitaires, des catégories populaires. Une gauche qui agite son nouveau front populaire, selon l'opinion, et un manque d'appréhension des angoisses des Français par l'exécutif, que souligne Cécile Cornudet des Échos. Notre consoeur estime que malgré tous les efforts de l'entourage du chef de l'État pour sonder l'opinion publique, un monsieur météo social manque à l'appel.
Cette grogne sociale va donc s'exprimer demain à l'occasion d'une journée de grève générale.
Le Dauphiné ose lui aussi la métaphore météorologique avec un coup de chaud sur le pays. Le Télégramme craint un mardi noir demain, jour pour lequel le quotidien communiste La Marseillaise imagine une totale grève le 18 octobre. Le Parisien se demande quel sera l'impact des grèves de ce mardi. Selon le journal, le mouvement devrait toucher le secteur de l'énergie mais également l'enseignement et le fonctionnement des administrations locales avec une forte mobilisation annoncée des agents territoriaux. Des désagréments à craindre également, selon Le Parisien, dans les transports publics, sur le réseau ferroviaire, avec dès aujourd'hui des annulations de TER. Et pour les Franciliens, à la RATP, où la CGT a appelé ses salariés à la grève. Il y aura donc moins de rames de métro et RER et de bus demain en Ile-de-France, encore moins que d'habitude, ce qui inspire un long dossier sur la galère des voyageurs franciliens dans Libé, qui titre joliment « Lire entre les lignes ».
Autre événement de la semaine, Philippe, mondial de l'automobile qui perturbe profondément Luc Ferry qui est là en ce studio.
Le salon de l'auto, comme on disait avant 1988, s'ouvre en effet aujourd'hui porte de Versailles, l'occasion pour Emmanuel Macron d'aborder dans les échos les grandes questions qui agitent un secteur de l'automobile en crise. Outre des annonces telles que l'augmentation à 7000 euros du bonus pour l'achat d'une voiture propre et un accompagnement massif de la filière pour atteindre l'objectif de 2 millions de véhicules électriques produits en 2030, le chef de l'État insiste dans cet entretien sur le contexte international qui se tend sur le secteur, de la part des Américains notamment, qui achètent américains et mènent une stratégie très offensive d'aide d'État. Pas de cadeau également de la part de la Chine. Selon Emmanuel Macron, les Chinois, eux, c'est clair, ferment leur marché.
La Chine, justement, qui fait la une des quotidiens ce matin à l'occasion du 20e congrès du Parti communiste.
Un congrès qu'a ouvert hier à Pékin le président chinois, Xi Jinping, qui vante la supériorité du modèle chinois, selon le Figaro. Un modèle qui s'appuie sur une détermination stratégique martelée par le président chinois lors de son discours de 104 minutes, hier, au cours duquel il a exalté l'esprit de lutte, un terme qu'il a répété 17 fois, comme pour justifier ses méthodes autoritaires. Il a aussi cité les mots « sûreté » et « sécurité » à 73 reprises, tant sur le plan sanitaire, face à la pandémie de Covid, qu'en matière de politique internationale, se vantant d'avoir mis au pas les manifestants pro-démocratie à Hong Kong et face à la question de la réunification de Taïwan, prônant soi-disant une voie pacifique. Pour la Croix, il n'est pas certain que ce discours rassure des Chinois en plein doute qui vivent, je cite, dans un climat d'inquiétude et de défiance vis-à-vis d'un pouvoir qui les met sous surveillance permanente et leur impose la politique oppressante du zéro Covid, politique qui se traduit également par un trou d'air inquiétant de la croissance économique en Chine qui ne devrait atteindre que 3,3% en 2022 au lieu des 5,5% prévus initialement.
Pour terminer, Philippe, nous allons plonger dans les coulisses assez extravagantes de la troupe des chanteurs de l'opéra.
Et c'est le Figaro qui nous propose de découvrir comment se sont passées les auditions pour recruter les 8 chanteuses et chanteurs qui auront l'honneur d'intégrer cette nouvelle troupe de l'Opéra de Paris. Une troupe qui avait disparu en 1972, mais qu'Alexandre Neff, le patron de l'Opéra, a souhaité faire renaître dès sa nomination en 2019 et dont il a lancé l'appel à candidature le 7 juillet dernier. Résultat, 578 candidatures de 24 nationalités, dont 60 ont eu droit de participer aux épreuves éliminatoires qui ont débuté le 19 septembre. Jeudi, il n'était plus que 15 à se disputer à huis clos sur la scène de l'Opéra Bastille, les 8 postes à pourvoir, aspirants soprano, mezzo-soprano, ténor, baryton et baryton-basse, les tessitures recherchées, ont dû chanter 5 airs dans 3 langues différentes face à un jury prestigieux qui comprenait notamment Sophie Koch et la chef Simone Young, l'Australienne qui dirige actuellement Salomé, de Richard Strauss à Bastille. À terme, cette troupe permanente qui entrera en fonction le 16 août 2023 comprendra 15 membres qui bénéficieront tous d'un CDD de 11 mois, renouvelable sur 3 saisons. Les heureux élus seront mensualisés, devront assumer 4 ou 5 rôles par an pour l'Opéra de Paris, mais ils pourront chanter pour d'autres institutions sous réserve, évidemment, comme on dit, d'une autorisation écrite de leur direction.
Merci Philippe Gault, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique, en l'absence de David Abicaire, à qui nous souhaitons d'excellentes vacances. Luc Ferry écrit des livres, c'est la raison pour laquelle il est là sur l'antenne de Radio Classique ce matin, pour commenter aussi l'actualité, mais le mélange entre les deux, entre l'intellectuel et l'actualité, donc l'homme d'idées, est ô combien nécessaire.